Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. J-1 avant l'ouverture du grand débat et on connaît une partie enfin de l'organigramme chargé de gérer en toute indépendance les propositions de vous, les Français. Une cellule de 5 personnes avec 2 ministres et 3 sages qui seront nommés vendredi. Décryptage dès le début de ce journal. La mort d'une patiente en décembre dernier à l'hôpital Lariboisière à Paris, après avoir été laissée longtemps, trop longtemps sans assistance. La faute à un dysfonctionnement et au manque de moyens. Explication à venir dans RTL Grand Soir. Après le livret A, c'est notre bon vieux placement en assurance vie qui se déprécie. 3 minutes pour comprendre ce coup de frein avec Philippe Crevel à 22h15. Il est le directeur du Cercle de l'Épargne. Et puis l'handball et un nouveau succès, le 3e pour les Bleus, 34-23 face aux 2 Corées réunies à l'ouverture de ces championnats du monde. Et à la fin de votre journal, le portrait du soir, celui de Cesare Battisti, de retour en prison en Italie, en Sardaigne. La météo pour demain, c'est du classique, beau et frais dans le sud, grisaille de saison dans le nord, sans oublier vos rendez-vous habituels. 22h20, votre magazine de l'écho, et à 22h25, ne manquez pas le choix d'RTL Grand Soir qui se portera ce soir sur un personnage hors du commun, c'est le tout dernier saltimbanque. Un drôle de personnage sera avec nous tout à l'heure en studio, monsieur Giovanni, avant, comme chaque soir, de retrouver à 22h30, Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Le grand débat, c'est donc pour demain. On en sait un tout petit peu plus sur la méthodologie et la façon de gérer cette enquête nationale de grande envergure. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a donné en fin de soirée les premières pistes et notamment la création d'un club des cinq.
J'ai précisé les conditions d'organisation de ce débat, des conditions d'impartialité, des conditions qui permettent à chacun de savoir que sa parole ne sera pas mal exploitée, si j'ose dire, mais bien au contraire entendue et correctement portée. Pour cette raison, nous avons prévu la constitution d'un collège de sages, de garants, qui veilleront au respect de ces principes. Ces garants seront nommés vendredi, parce que le président de la République et moi avons souhaité proposer au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental, de désigner un représentant, de façon à ce que ce comité des garants ne soit pas simplement l'expression de choix qui viendrait du gouvernement, mais bien la réunion de personnalités indépendantes désignées par l'ensemble des pouvoirs institutionnels.
Un collège donc de 5 sages nommés ce vendredi. Vincent Derosier, merci d'être avec nous pour garantir l'indépendance du grand débat. Mode d'emploi avec vous Vincent, après cette décision pour le moins quand même express. Hein.
Oui, tout a été fait dans la précipitation, me confie un ministre, à tel point Christophe qu'on ne connaît toujours pas le nom des 5 garants du débat qui vont remplacer Chantal Jouanneau. Ils seront nommés, a dit le Premier ministre, vendredi. En plus des 2 ministres animateurs du débat, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon, le gouvernement nommera 2 sages, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social, les 3 autres. Petite nouveauté, toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée ou au Sénat pourront participer à un comité de suivi. Les détails techniques, on les connaît maintenant. Le débat débute demain pour 2 mois. Citoyens, élus et associations, tout le monde peut participer. D'abord dans des réunions locales pour un débat physique dès demain. Et à partir du 21 janvier, la semaine prochaine, sur Internet, sur le site www.granddebat.fr ou par courrier, si vous préférez le papier, adressé à la mission Grand Débat. Tous ceux qui décident d'organiser ces réunions auront à leur disposition les fameux kits méthodologiques, des fiches selon les thèmes annoncés par le président de la République dans sa lettre. Dès demain, vous trouverez tous les lieux de débat sur le site internet et un numéro vert, le 0800 97 11 11, est à votre disposition. Enfin, dans un deuxième temps, à partir du 1er mars, là, des Français seront tirés au sort pour participer aux suites à donner à tout ça. Quelles pistes concrètes faut-il lancer à partir des réflexions des Français. Et c'est à ce moment-là que ça devrait se compliquer pour le gouvernement.
Merci beaucoup Vincent. Vincent Derosier, service politique de la première radio de France. 2 ministres pour piloter ce collège des garants, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon, qui était l'invité invité d'RTL Soir, la secrétaire d'État à la transition écologique, a précisé, je cite, « Nous avons un rôle d'animation et de mobilisation ». Elle a également assuré que le débat n'aurait pas lieu sous contrôle. Et le président de la République, de son côté, lui, a choisi la ville de Bourg-Traute dans l'Eure pour lancer officiellement ce grand débat. D'ailleurs, près d'un Français sur deux se dit concerné, selon un sondage d'Opinionway, par ce moyen de communication mis en place par le gouvernement pour sortir de cette crise des gilets jaunes. 600 maires seront présents aux côtés d'Emmanuel Macron. Sidamir, vous êtes déjà sur place pour RTL. Quelle est l'ambiance ce soir dans les rues de cette ville de 3800 habitants? Qu'est-ce qu'on dit? Sérénité, inquiétude après les derniers événements?
Oui, les images des violences des manifestations de Rouen à quelques kilomètres sont arrivées jusque sous le clocher de Bourg-Traute, ce qui nourrit forcément l'inquiétude des plus anciens à la veille de cette visite présidentielle.
On voit de la casse partout, alors ça va certainement être chaud ici.
Vous voyez, il n'y a pas de merdier comme ça à Bourg-Traute d'habitude. Enfin là, il va nous en mettre.
Quoi ? Ce sera dommage de casser une petite commune comme ça qui est bien.
Alors en préfecture et en mairie, on s'active pour assurer un déplacement le plus classique possible malgré le contexte. Et petit à petit, les terroutes bourgeois se prennent aussi au jeu, notamment autour du cahier des doléances, censé nourrir ce grand débat. Sophie est venue y déposer un mot à l'heure de la sortie d'école.
Sur les pays nordiques qui riaient de nous parce que leurs ministres sont payés honorablement, mais pas de façon faramineuse. Ils roulent dans des voitures moyennes et bien correctes, mais pas dans de très grosses berlines.
On ne sait pas encore ce soir si ces questions seront au menu. Des interrogations formulées par les maires invités à intervenir face à Emmanuel Macron demain. Une chose est sûre, il sera bien question de services publics dans ce territoire rural, de justice fiscale et d'ISF également. Des problématiques chères aux gilets jaunes du département qui espèrent être un millier pour accueillir le président.
Merci à vous, Sidamir, à Bourg-Traute pour RTL.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
22h06, le procès de deux policiers d'élite du mythique 36 Quai des Orfèvres, accusés du viol d'une touriste canadienne en 2014 dans les locaux de la police judiciaire. C'est ouvert cet après-midi. 5 ans après, la victime canadienne est revenue à Paris pour expliquer les faits à nouveau. 5 ans après cette nuit particulière, Alice Moreno.
Oui, les épaules d'Émilie sont secouées de sanglots étouffés à la lecture des faits quand le président à l'audience raconte les fellations et les pénétrations qu'elle aurait subies de force. La quadragénaire canadienne enfouit son menton dans une épaisse écharpe, soulève ses lunettes, porte un mouchoir au coin de ses yeux. 5 ans après cette soirée où elle a quitté le 36 Quai des Orfèvres en larmes, Émilie se trouve tout près des deux policiers qu'elle accuse de viol à 1 mètre, tout juste derrière eux. Ces anciens agents de la BRI comparaissent libres, leurs larges carrures engoncées dans des vestes sombres, les mains jointes. Ils bougent à peine, ne jettent pas un regard à la partie civile, baissent seulement les yeux à l'évocation de quelques détails, comme ce SMS que l'un d'eux a envoyé à un collègue le soir des faits en parlant d'Émilie. « Viens, c'est une partouzeuse », écrivait-il alors. Quand le juge se penche sur les déclarations des policiers, Nicolas, le plus âgé des deux, hoche la tête comme pour acquiescer, car oui, tous deux reconnaissent que ce soir d'avril 2014, dans un bureau du 36, il y a eu des caresses, des rapports sexuels, mais ils l'assurent, depuis le début, Émilie était consentante.
Compte rendu d'audience signé Alice Moreno, service enquête et reportage RTL. L'enquête interne sur le décès inexpliqué d'une patiente aux urgences de l'hôpital Lariboisière en décembre dernier à Paris pointe une série de dysfonctionnements dans sa prise en charge et, sur une fois de plus, Odile Pouget, sur le manque criant de moyens. Odile Pouget. Si Odile veut bien, vous me dites
oui,
ainsi.
D'abord oui. Le nom de Merci cette Odile. Femme, mal orthographiée, ce qui a pu poser problème lorsqu'on l'a appelée. Ensuite, une surveillance défaillante dans la zone d'attente. Entre 21h et minuit, personne n'est venu réévaluer le cas de Micheline, placé en priorité 3, ce qui signifie que son état était susceptible de s'aggraver au fil des heures. Enfin, pas d'investigation suffisante au moment de l'appel, resté sans réponse plus de 5 heures après son arrivée. Pas de vérification notamment des bracelets des malades en attente. Une succession de dysfonctionnements dans un contexte récurrent de surcharge. 249 passages enregistrés ce jour-là contre 230 en moyenne, avec un manque d'effectifs chroniques et des boxes d'examen insuffisants. Le professeur Dominique Pateron qui a conduit cette enquête.
Quand vous avez 10 boxes alors qu'il vous en faudrait 15 pour avancer, ça ralentit l'ensemble du flux. Avec des délais de prise en charge très longs, la présence des patients est particulièrement importante et la surveillance est difficile. Et les autres tâches qui sont dévolues au personnel qui font théoriquement cette surveillance, ils ne peuvent pas la faire dans des conditions correctes.
Et parmi les 10 recommandations formulées pour Lariboisière, certaines sont déjà appliquées, comme la présence d'un aide-soignant spécialement affecté à la surveillance des patients en salle d'attente la nuit.
Merci à vous, Odile Pouget, service santé d'RTL. Un skieur néerlandais est mort cet après-midi, emporté par une avalanche dans un secteur hors piste de la station de Valmorel. Il skiait avec son fils de 22 ans lorsqu'il a été emporté par cette coulée de neige en Savoie. Je vous le rappelle, le risque d'avalanche est de marquer à fort, selon les termes, sur l'ensemble des massifs jusqu'à demain. Inclus les sports, le handball, les mondiaux et la France qui vient de remporter son troisième match, c'était contre la Corée réunifiée. Succès tranquille, hein, 34-23, Isabelle Langer.
Oui, mais ne vous fiez pas au score, hein, Christophe. Si l'équipe de France a archi-dominé les 20 dernières minutes de la partie, qu'est-ce qu'elle a souffert pendant les 40 premières? Les Bleus ont manqué d'agressivité et se sont fait bousculer par cette surprenante équipe de Corée unifiée. Cette victoire, en tous les cas, permet aux hommes de Didier Dinard de prendre les commandes de leur groupe. Ils sont désormais seuls en tête puisque cet après-midi, les Allemands ont concédé le nul 22-22 contre les Russes. Autant dire que demain à 20h30, les Allemands, devant leur public à Berlin, eh bien, auront à cœur de se rattraper contre les Bleus. Match choc en perspective.
Vous savez quoi ? On se dit à demain.
À demain.
La météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnet. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La situation météo est plus calme en ce début de semaine. On retrouve des conditions météo anticycloniques. Mais demain encore, le temps sera très contrasté. Au nord de la Loire, nous aurons encore pas mal de grisailles, des brouillards demain matin et des nuages bas. Et encore un petit peu d'humidité sur le quart nord-est avec quelques pluies faibles ou encore quelques flocons de neige possibles sur les Vosges. Alors qu'au sud de la Loire, quelques brouillards demain matin, en particulier dans le sud-ouest. Et ensuite, nous aurons un temps très ensoleillé, grand soleil en montagne. Mais attention, le risque d'avoir l'avalanche sera encore très marquée demain matin sur le nord des Alpes. Les températures de moins 2 à 9 degrés demain matin, moins 2 degrés à Aurillac, 1 degré à Montauban, 4 degrés à Brest et La Rochelle, 9 à Perpignan et de 5 à 16 dans l'après-midi, 5 à Besançon, 7 à Lyon, 9 degrés à Lille, à Paris et Brest, 10 degrés à Bordeaux, 12 à Marseille et 16 degrés. Ce sera le maximum pour Nice et Bastia.